Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici un fait divers qui a traumatisé la France à la toute fin du 19e siècle. L'incendie du bazar de la Charité en mai 1897 à Paris. Une histoire vraie qui a inspiré récemment une série en costume de TF1. Je me suis inspiré pour écrire cette histoire fascinante du livre de l'historien Bruno Funini qui sera là tout à l'heure, L'incendie du bazar de la Charité aux éditions de l'Archipel. J'ai écrit cette histoire avec Bettina Servant, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Au début de l'année 1897, à Paris, dans la bonne société, on ne parle que de Mademoiselle Couédon, une voyante de la rue du Paradis, dans le 10e arrondissement.
Écoutez, ma chère, il paraît que cette femme est extraordinaire. Il semble qu'elle soit en connexion directe avec l'archange Gabriel. C'est ce que j'ai lu, hein. Elle ne prédit pas l'avenir, ma chère, elle le dit. Et mieux que ça, elle le dit en vers français. Je serais bien curieuse d'assister à une de ces séances. Rue du Paradis, dites-vous, comtesse. Vous n'y songez pas, enfin, c'est un quartier ouvrier. Personnellement, je n'irai pas. Et si je la faisais venir ici, hein, chez moi? Qu'en pensez-vous? Ce serait amusant.
Et c'est ainsi que le 21 mars 1897, Henriette Couédon, 24 ans, la voyante de la rue du Paradis, débarque chez la comtesse de Maillé, dans son hôtel particulier près des Champs-Élysées. Toute la bonne société est là. Même le poète José Maria de Heredia a accepté l'invitation. Une voyante, ça ne se refuse pas. Et soudain, voilà Mademoiselle Couédon qui se met en transe. Elle est comme saisie de convulsions. Elle a les bras levés.
Près des Champs-Élysées, je vois un endroit pas élevé, qui n'est pas pour la pitié, mais qui en est approché, dans un but de charité, qui n'est pas la vérité. Je vois le feu s'élever, je vois les gens hurler, des chairs grillées, des corps calcinés. J'en vois comme par pelletée.
Autour, les gens sont horrifiés. N'empêche qu'aucune des personnes présentes ce soir-là chez la comtesse de Maillé n'ira rôtir au bazar de la Charité. Aucune. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar de la Charité? C'est une structure, si vous voulez, un consortium, créé 7 ans plus tôt en 1885, et qui fédère une vingtaine d'œuvres charitables. L'idée est d'organiser une fois par an une grande vente au bénéfice de leurs œuvres en partageant les frais d'organisation. Les premières années, les ventes ont lieu chez les plus riches, ceux qui ont des hôtels particuliers assez vastes. Et puis en 1897, le comité d'organisation décide de faire un coup et de bâtir sur un terrain vague de la rue Jean Goujon une construction éphémère.
J'ai une idée. J'ai entendu dire que le décor réalisé l'année dernière pour l'exposition du théâtre et de la musique est à vendre. C'est un décor qui représente une rue du Vieux-Paris au Moyen-Âge. À mon avis, ça plaira beaucoup. Nous pourrions le racheter pour une somme modique. Qu'en pensez-vous?
Effectivement, c'est un décor en carton pas très amusant. Il représente une rue avec ses échoppes de part et d'autre qui portent le doux nom de « au chat beauté »,« au soleil d'or », et puis des auberges, une église, des tourelles, des échauguettes, des balcons ornés de plantes grimpantes.
Alors je propose que nous mettions la société de secours aux blessés de la Générale Février au numéro 1, hein. Et puis au numéro 3 de la rue, nous pourrions mettre l'orphelinat de l'avenue Victor Hugo, qu'en pensez-vous? Et puis les jeunes filles aveugles de Saint-Paul iront au numéro 15, hein? Et puis au numéro 4, nous installerons le noviciat dominicain de la duchesse d'Alençon. Ça vous va?
Concrètement, voilà ce que ça donne.
une baraque en pichepin. Une grande caisse en bois de 80 mètres de long sur 13 mètres de large, avec un plancher en bois directement posé sur la terre du terrain vague. Et le tout est recouvert d'une toile goudronnée, avec idée très amusante, deux portes-tambours aux issues principales. J'insiste sur ces portes parce qu'elles vont faire office de piège à riches. À quelques heures de l'inauguration du bazar de la charité, il y a quelque chose que je veux absolument vous dire au sujet de ce bazar organisé chaque année par la Bonne Société Parisienne. C'est un endroit où, une fois par an, la jeunesse dorée se lâche. Pendant quelques jours, le bazar allège un peu l'étiquette. Figurez-vous qu'une année, on a vu une baronne, contre quelques louis d'or, se laisser déposer des baisers sur la joue, en disant toute rouge « C'est pour mes pauvres, c'est pour mes pauvres !» Je peux vous dire que les jours de bazar, les jeunes filles à marier ne lésinent pas sur leur apparence. Le chapeau, les plumes, les robes en mousseline, les rubans, les fanfreluches. Tout ça est assez loin de Dieu et de Jésus et de tous les saints qui patronnent l'institution. Le bazar de la Charité 1897 ouvre le 3 mai, en présence de la duchesse d'Alençon, s'il vous plaît, princesse de Bavière et sœur de l'impératrice d'Autriche. Il y a aussi beaucoup de bonnes sœurs, et surtout des dames patronesses et des enfants. En costume de papier, ils ont monté un petit spectacle. Ils miment la passion du Christ. C'est tellement mignon. Mais la grande inauguration a lieu le lendemain, le 4 mai, avec une double attraction. D'abord, Monseigneur Carli, le nonce apostolique, donne la bénédiction du pape.
In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus.
Et ensuite et surtout, le cinématographe. Depuis le temps qu'on en parle de ces images animées que les frères Lumière ont inventées il y a 2 ans, c'est tout nouveau. Et donc on a installé un petit cinéma tout petit, 9 mètres sur 4. Et évidemment, tout le monde a envie de voir ça. Devant l'entrée, il y a un monsieur avec une clochette.
Entrez, mesdames et messieurs, la séance va bientôt commencer.
Il est 4h20 de l'après-midi. À ce moment-là, le nonce apostolique s'en va. Et juste après, une explosion. Et assez vite, des flammes. Des flammes qui jaillissent de la salle de projection. Le projecteur a pris feu. Et les pellicules en celluloïde flambent. Et maintenant, le feu se propage au mur en bois à une vitesse incroyable. Une petite fille est là qui s'appelle Fabienne. Elle est venue avec une amie de sa mère, Madame Legrand. Elle a survécu. Alors elle peut raconter.
J'ai reçu une goutte enflammée. Cette goutte enflammée a glissé sur la charlotte, m'a enflammé les cheveux que je portais longs, a abîmé ma robe, m'a fait d'abord très mal, m'a donné une peur horrible. La porte d'entrée, dont je n'étais pas très éloignée, était entrouverte. J'ai eu la force de m'arracher au bras de Madame Legrand et je suis sortie une des premières en flammes.
Fabienne a survécu. Mais retournons à l'intérieur. En moins de 3 minutes, les flammes ont gagné les frises du décor. Et maintenant, elles courent sur les toiles peintes. Il règne maintenant une odeur terrible, un mélange de goudron fondu et de chair brûlée. C'est tout le bâtiment qui flambe et ça crée une panique inimaginable. 1200 personnes se précipitent en même temps vers les deux portes à tambour. Et forcément, elles se bousculent, elles s'écrasent, les gens tombent les uns sur les autres, ça fait des tas, on ne peut plus passer. Et partout, des hommes et des femmes qui se tordent en hurlant et qui finissent par flamber eux aussi. Et au bout de 20 minutes, 20 minutes à peine, la carcasse s'effondre, tout entière. C'est fini, il n'y a plus rien. Tout a brûlé. Les pompiers de Paris ont été prévenus à 16h34. Ils arrivent rue Jean Goujon 10 minutes plus tard. Pour l'époque, c'est un exploit, ils sont à cheval. Les premiers qui arrivent à 16h39 sont un caporal et 2 sapeurs. Mais, stressés sans doute, ils renversent leur voiture. Alors un sergent-pompier en permission qui passe par là prend les choses en main.
Par ici, mettez-vous ici, voilà, ici, là, bien.
À 5h moins le quart, 20 lances d'incendie se mettent en action. Pour le bazar de la charité, c'est trop tard. Mais ça évite la contamination aux immeubles voisins. Il y a eu des héros dans cette catastrophe. Et d'abord, les cochers et les palefreniers de l'écurie Rothschild, qui est juste en face. Quand les gens ont commencé à sortir en feu, ils ont eu la bonne idée de les jeter dans leurs abreuvoirs. Et puis il y a eu l'ouvrier plombier piqué. Il travaillait à côté. Il est arrivé en courant. Il s'est jeté dans la fournaise. Et il a ramené une femme, puis une seconde, et ainsi de suite. En tout, il en a sauvé 100. Et après, vous n'allez pas le croire, il est rentré travailler. Un héros. Et puis parmi les héros, il y a aussi Georges, un cocher.
Ben, j'ai demandé à un ami de m'arroser avec une lance à eau, quoi. Et puis j'ai rentré dans la fournaise, quoi. Et puis là, j'ai vu une femme. Je l'ai ramenée dans mes bras. Et puis autant de fois, j'ai recommencé, quoi. Moi, j'en ai sorti 10.
Ça lui vaudra la Légion d'honneur. D'autant qu'il s'est blessé, Georges. Aux mains, aux bras et au cou. En portant une grosse dame qui n'avait déjà plus de pieds et qui, dit-il, fondait dans ses bras. Elle gesticulait tellement à cause de la douleur qu'elle l'a fait tomber et qu'il s'est blessé. Dans les anecdotes de cette terrible journée, on raconte aussi qu'une plantureuse baronne, emportée du brasier par un sauveur, lui a reproché de lui palper les fesses. Il y a aussi ces survivants qui sont passés par derrière et qui, en fuyant le brasier, se sont retrouvés acculés à l'arrière d'immeubles borgnes, sans issue. Un seul endroit où passer. Le fenestron du restaurant de l'hôtel du Palais. Mais il est équipé de barreaux. Heureusement, le cuisinier qui s'appelle Gomery est là. Il va chercher le marteau qui lui sert à casser le charbon. Et à coups de marteau, bim, 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 il se met à desceller les barreaux. Et autour, les gens surgissent en flammes et le feu se rapproche. Et une femme en feu vient s'accrocher au barreau. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Le brave cuisinier doit lui donner des coups de marteau sur les doigts pour qu'elle lâche et continuer son travail désespéré. Bim ! Bim ! Et finalement, les 5 barreaux cèdent et la femme et les autres sont sauvés. Il ne reste plus que des poteaux à demi calcinés et un brasier fumant au ras du sol. Et maintenant, il faut compter les morts. Les cadavres que l'eau des lances à incendie a transformés en boue gluante. Un charnier à ciel ouvert. Un avant-goût de l'enfer. Les corps sont méconnaissables. Ils n'ont plus figure humaine. On commence par les couvrir de bâches. Et le palais de l'industrie à côté est transformé en dépôt mortuaire. Des gardiens de la paix, des soldats, des gendarmes sont mobilisés pour transporter les cadavres et les objets qui vont avec, les bijoux notamment, qui permettront de les identifier. Et quand la nuit arrive, on poursuit les recherches sur le terrain à la lueur de flambeaux. Les pompiers tombent sur une femme carbonisée qui tient enlacée dans ses bras une petite fille, la tête serrée contre elle, tellement serrée qu'on ne peut pas les séparer. Ils trouvent aussi 4 femmes et un vieillard qui sont morts étouffés, asphyxiés, en tas. Et à qui est ce pan de robe bleue collé sur 2 jambes dont un pied se détache ? Le lendemain matin, les opérations se poursuivent et des ministres, notamment le ministre de l'Intérieur, Bartou, viennent inspecter le chantier. On vient de retrouver une rescapée, figurez-vous, Marie de Montagnac, la fille d'un fabricant de draps de Sedan. Elle a eu la bonne idée de se hisser sur le mur de l'écurie voisine et de grimper jusqu'au toit. Les flammes sont venues la lécher, elle a les jambes horriblement brûlées, mais pas la tête. Les corps sont transportés un par un dans des linceuls jusqu'au palais de l'industrie.
et les gens se pressent devant l'entrée.
S'il vous plaît, ma mère n'est pas rentrée. Peut-être est-elle parmi les morts. Laissez-moi voir, je vous en prie.
Ah, désolé. C'est impossible, nous avons des consignes. Revenez demain. La préfecture de police vient de donner des chiffres.
Bien, messieurs. Nous avons dénombré 111 cadavres dans les décombres. 81 victimes ont été identifiées grâce aux effets qu'elles avaient sur elles. Et les familles nous ont signalé 136 personnes disparues. Voilà ce que nous pouvons vous dire pour l'instant.
Le surlendemain de l'incendie, les familles sont invitées à venir reconnaître les corps non identifiés. Les cadavres ont été placés sur deux rangées. Ils sont éclairés par un brasero au milieu de la salle qui dégage une lueur sinistre. Et de temps en temps, on entend au loin un parent ou une femme de chambre qui vient de reconnaître un corps.
Oh, je reconnais la bague et la robe qu'elle portait. Oh mon Dieu!
Au fond de la salle, deux hommes se penchent sur un cadavre. Ils trouvent un portefeuille racorni par les flammes.
Oh mon Dieu! Je crois que c'est celui de ma femme. Monsieur, vous pouvez regarder si elle porte une bague?
Je ne vois rien à la main droite.
À la main gauche, peut-être?
Monsieur, il n'y a plus de main gauche.
On entend un cri au loin. C'est un valet de chambre qui vient de reconnaître sa maîtresse à sa robe, la comtesse de Saint-Martin. Dans l'angle de la cour, on a posé 100 cercueils vides. Et quand les corps sont identifiés, on les place à l'intérieur. Et ils sont transportés au domicile. Le 6 mai, surlendemain de la catastrophe, il reste 19 cadavres non identifiés. Ils sont posés côte à côte, comme dans une brocante atroce, aux côtés des lambeaux de vêtements et d'objets qui pourraient aider à les reconnaître. On fait venir 3 médecins légistes. Ils installent des tables et ils prennent les cadavres un par un. Ils commencent par les déshabiller et ensuite ils les examinent avec une loupe. La dentition, les plaies, les cicatrices anciennes, les signes particuliers. Le comte de Loupe s'impatiente. Il croit reconnaître sa femme, mais on refuse de lui remettre le corps.
Nous sommes désolés, monsieur le comte, mais cette femme est beaucoup plus jeune que la comtesse. La comtesse avait-elle un signe particulier?
Oui. Elle avait une opération, une cicatrice.
Elle a sans doute été effacée par le feu.
Enfin, tout le monde a trouvé son cadavre, excepté moi. Enfin, c'est horrible. Le savez-vous, ça, hein? C'est épouvantable. Il me faut ma femme, hein? Il me la faut. Rendez-la-moi.
Quand le soir arrive, il ne reste plus que 7 cadavres non identifiés. Et 2 jours plus tard, le nombre descend à 6. 6 femmes. La police livre à la presse une description de chacune d'entre elles. Le corps numéro 1 est celui d'une femme bien constituée, d'une taille d'1,50 m environ, avec dans la région de la nuque des cheveux à reflets rougeâtres. Parmi ses vêtements, on a retrouvé un fragment de chemise festonnée à coulisses, marqué MP en lettres gothiques au fil rouge, ainsi qu'un débris de corsage en étoile jaunâtre à côtes, baleiné avec des ornements en tulle. Le corps numéro 2 est celui d'une femme d'1,50 m environ, brune, avec un corps au petit doigt du pied droit. Il reste aussi 6 chevelures de femme, 2 tibias, une main complète mais sans bague, 3 troncs incomplets, un pied dans une bottine sans marque, une mâchoire inférieure, 11 fausses dents, une dizaine de kilos d'entrailles et un sabre d'officier d'infanterie. Il y a eu 130 morts. Et sur les 130 morts, on fait assez vite le compte. Il n'y a que 7 hommes. 7 hommes contre 123 femmes. Pourquoi? Eh bien parce que les hommes, ont détalé. Ils se sont sauvés en se frayant un passage à coups de pied, à coups de poing, à coups de canne. Et je peux vous dire que ça, dans la presse de gauche notamment, ça fait scandale. Je vous lis un extrait du Petit Journal. On dit que plusieurs femmes ne furent blessées que par ceux qui faisaient le moulinet avec leurs cannes ou avec des bouteilles de champagne assommant les infortunés qui les gênaient dans leur fuite éperdue. Que le remords et le mépris punissent ces misérables. Le baron de Mâcon lui-même, le président du bazar de la charité, est accusé d'avoir frappé des femmes pour sauver sa peau. Le 8 mai, une cérémonie d'hommage aux victimes a lieu à Notre-Dame. Et même le président Félix Faure est là, qui pourtant ne croit ni à Dieu, ni à diable. Il y a des représentants du tsar de Russie, de l'empereur d'Allemagne, le lord maire de Londres est là avec ses deux fils. Dans la nef de la cathédrale, on a tendu des draperies noires lamées d'argent. Et alors qu'on joue la marche funèbre de Beethoven. Et puis, vient le prêche du père Olivier.
Messieurs, la mort fait éruption. Et d'un seul coup, la plus horrible qui se puisse imaginer, elle met à néant toute cette jeunesse, toute cette beauté, toute cette force, tout ce bonheur. Mais pourquoi ? Pourquoi cela s'est-il fait? À quel dessein se rattache l'horreur d'un pareil deuil? Ô Dieu de la France catholique, sans doute vous avez voulu donner une leçon terrible à l'orgueil de ce siècle, où l'homme parle sans cesse de son triomphe contre vous. La France a mérité ce châtiment par un nouvel abandon de ses traditions. Au lieu de marcher à la tête de la civilisation chrétienne, la France a consenti à suivre en servante ou en esclave des doctrines aussi étrangères à son génie qu'à son baptême. Elle s'est pliée à des mœurs où rien ne se reconnaissait de sa fière et généreuse nature. Dieu, ne voulant pas l'abandonner, devait la soumettre à l'expiation.
Vous auriez dû voir la tête du président de la République, Félix Faure. Il est furax, mais il ne peut pas répondre. Et le prêche du père Olivier soulève beaucoup de protestations jusqu'à la Chambre des députés. Le 24 août 1897, le tribunal condamne les deux projectionnistes de cinéma qui ont mis le feu, l'un à un an de prison avec sursis et 300 francs d'amende, et l'autre à 8 mois avec sursis et 200 francs d'amende. Et le baron de Mâcon, qui avait organisé le bazar, s'en sort avec une amende de 500 francs. Et rassurez-vous, il reste député. Si vous allez aujourd'hui au 23 de la rue Jean Goujon, vous trouverez une chapelle bâtie dans les années qui ont suivi l'incendie. La chapelle Notre-Dame de Consolation, de style néo-baroque. Elle appartient toujours aujourd'hui à l'association des descendants des victimes de l'incendie. Et elle comprend une petite vitrine dans laquelle sont exposés quelques objets, des poupées noircies, des chapelets et des rosaires carbonisés. Elle est occupée depuis 2013 par les intégristes de la fraternité Saint-Pédis. Voilà donc pour cette histoire directement tirée de l'excellent livre de Bruno Fuligny qui est là face à moi, l'incendie du bazar de la charité
aux éditions L'Archipel. Dites donc, on n'est pas allé chercher bien loin les responsabilités dans cette affaire.
Oui, il y a un incroyable déni de justice parce que, évidemment, les personnages qui ont organisé ce bazar et qui n'ont pris aucune précaution, qui ont été vraiment irresponsables...
sont intouchables.
Voilà, ne seront pas poursuivis, ne seront pas condamnés sérieusement. C'est un procès qui n'est pas un procès sérieux. On a des lampistes au sens littéral, oui. Les projectionnistes, mais les projectionnistes n'ont pas eu le choix ni de l'appareil, ni de la structure dans laquelle ils faisaient leur métier. Ils ont été maladroits, ça c'est certain, craquer une allumette.
Expliquez-nous comment ça marchait à l'époque, parce qu'ensuite ça va changer. Après cet incendie, on passera à l'électricité assez raisonnablement.
Oui, parce que cet incendie, en fait, a failli sonner le glas du cinéma. C'est-à-dire, comme il y a eu d'autres incendies aussi provoqués par des projections cinématographiques, des voix se sont levées pour dire il faut arrêter le cinéma parce que ça s'enflamme. En effet, à l'époque, comme l'électricité est rare et très chère, eh bien, on utilise de préférence des projecteurs à éther. C'est-à-dire qu'il y a une réaction chimique qui crée une très belle lumière blanche, et donc c'est très bien pour
c'est
projeter.
C'est de l'éther qu'on enflamme.
En quelque sorte, c'est un bâton de calcaire qui est frappé par un gaz, et donc ça crée une lumière blanche très très éclatante.
Mais si c'est mal dosé, ça flambe.
Le problème, c'est que ça dégage des vapeurs d'éther. Par ailleurs, il faut de temps en temps changer la lampe, et donc c'est dans cette manipulation-là qui nécessite un peu de lumière que l'aide projectionniste a l'idée malencontreuse de craquer une allumette. Donc, le projecteur devient une véritable bombe, et c'est pourquoi les frères Lumière diront « Mais non, le cinéma n'est pas dangereux », à condition d'utiliser des projecteurs électriques, ce qui fut le cas après 1897. Vraiment, cette catastrophe a sonné le glas des projecteurs dits Molteni à l'éther. Mais le projecteur, ça a été en quelque sorte le détonateur. Après, vous l'avez dit, tout était inflammable, rien n'était inifugé, et puis il y avait
les portes à tambour.
Les portes à tambour qui se coincent.
C'est une idée d'un des membres du bazar de la charité dont le père est banquier et qui a ça dans sa banque.
Oui, c'est très chic, une porte à tambour. Vous avez ça dans les banques, dans les grands hôtels. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de foule. Et puis alors, il y avait d'autres issues, des issues de secours en quelque sorte. Mais alors, figurez-vous qu'elles ne s'ouvraient que vers l'intérieur. Donc évidemment, dès que vous avez des gens qui se précipitent dessus ou des corps qui tombent à terre, elles sont inutilisables. Et c'est ainsi que plus de 100 personnes se sont retrouvées littéralement enfermées, prisonnières de cette boîte en feu, avec du feu au plafond, au sol et le long des murs.
D'ailleurs, le mot charité, qui est totalement passé de mode depuis, et même la conception de la charité à cette époque peut choquer aujourd'hui, mais ça colle à l'époque. Ce sont les œuvres, ce sont les bonnes dames, ce sont les dames patronesses.
Oui, il y a une dimension religieuse qui est très importante. Aujourd'hui, on parle de caritatif, ce qui est une manière un petit peu de gommer cette vertu, en quelque sorte. Et bien sûr, les bonnes œuvres sont des œuvres chrétiennes. Le bazar est organisé par des dévots, si vous voulez, qui par ailleurs sont assez hostiles aux institutions républicaines. On trouve beaucoup de monarchistes. Donc il y a une dimension politique qui va de pair avec la dimension religieuse. Nous sommes à un moment où renaît une extrême gauche qui avait été écrasée au moment de la Commune, qui renaît, un groupe socialiste, des militants anarchistes, des syndicats, et donc la bonne société veut montrer qu'elle aussi se préoccupe des pauvres, se préoccupe de la question sociale, mais à travers la charité. On collecte de l'argent en vendant très cher des petites babioles
qui valent rien, mais
cet argent ira aux pauvres bien choisis par ces différentes œuvres, les jeunes filles aveugles, les apprentis, toutes sortes de nécessiteux qui vont à la messe, et puis c'est aussi... un rendez-vous mondain, donc on fait le bien.
Ça, comment ils assument ça? Ça n'est pas assumé, c'est sous le tapis.
C'est non-dit, ça fait partie d'une certaine sociabilité, alors qui nous paraît un petit peu curieuse aujourd'hui, mais qui est totalement assumée à l'époque, et c'est pour ça que le bazar a lieu au printemps, le 3 et 4 mai, c'est le moment où on va approcher les jeunes filles à marier qui sont vraiment dans leurs plus beaux atours.
En juillet, elles sont devant Monsieur le Curé, quoi.
Éventuellement. Ouais. Et de toute façon, elles ont quitté Paris, qui sent très mauvais, où il fait trop chaud l'été, et elles sont sur les bords de la mer.
Le fait que les hommes se soient sauvés en passant sur les femmes, en les écartant, se soient sauvés les premiers, ça choque néanmoins les chrétiens aussi.
Ça choque tout le monde.
Pour le coup.
Ça choque tout le monde. Et justement, ça met en avant cette dimension mondaine. On se dit que ce sont finalement de jeunes gandins, de bons à rien. Normalement, ça devrait être la fine fleur de l'aristocratie. Mais cette aristocratie va se discréditer gravement dans l'esprit de l'ensemble des Français parce que, au lieu de se montrer chevaleresque et d'aider les dames, eh bien, ces messieurs se précipitent dehors. Alors, il est vrai que leur costume, beaucoup plus sobre, leur permet aussi d'échapper aux flammes. Mais certains d'entre eux se sont visiblement très très mal comportés. Il n'y aura pas non plus de poursuites. Hein. Ce sont des rumeurs qui circulent, qui sont reprises par les journaux. Ce sont les caricaturistes, les chansonniers qui vont s'en emparer. On va se moquer du baron d'Escampette, des chevaliers de la frousse. Disons que c'est le moment où la gauche, bien sûr, mais aussi une partie de la droite, un peu traditionnaliste, tout le monde est outré par le comportement de ces jeunes gens bien mis qui n'ont songé qu'à sauver leur peau.
D'une certaine façon, c'est la fin de la Révolution, ce moment-là. C'est le moment où on bascule définitivement dans la République.
Oui, d'autant qu'à un moment, on pouvait, au début des années 1890, assister à un rapprochement entre certains républicains socialement conservateurs et puis ce qu'on appelait les droites à l'époque, les différentes familles de monarchistes. Mais là, ce qui se passe avec cet incendie et puis toutes ces répercussions qui aggravent la fracture religieuse, eh bien, mettent fin à ce rapprochement. Et 8 ans plus tard, que voit-on ? La loi de 1905, séparation des églises et de l'État.
Elle découle un peu de là aussi.
Aussi, parce que les conséquences de cet incendie, les conséquences politiques, eh bien, vont accroître cette fracture qui existe, bien sûr, depuis longtemps. Mais qui va devenir vraiment un gouffre entre la France catholique d'une part et puis la France républicaine d'autre part.
J'ai été assez surpris de voir les politiques se jeter sur ce fait divers de manière assez moderne. Je pensais que c'était quelque chose de très contemporain, mais non, le président Félix Faure va à la morgue et il va, on en parlera tout à l'heure à Notre-Dame, et puis les ministres, plusieurs ministres, vont sur place se recueillir.
Alors, il faut bien voir aussi la dimension internationale de ce fait divers. Parmi les victimes, vous avez par exemple la duchesse d'Alençon, qui est tout simplement la sœur de Sissi, l'impératrice d'Autriche. Vous avez une cousine du Kaiser, l'empereur d'Allemagne. Vous avez une cousine du Lord Maire, et c'est pour ça que le Lord Maire de Londres est présent. En fait, un journaliste a recensé les morts à l'époque en disant que finalement cet incendie avait endeuillé toutes les cours d'Europe. Et c'est pour cela aussi que le chef de l'État, tout président de la République élu qu'il est, eh bien évidemment se doit d'être présent, parce que c'est un événement qui a une dimension mondiale en fait.
Merci d'avoir reproduit dans votre livre la totalité du prêche du père Olivier. C'est un moment de bravoure extraordinaire. Moi, je me suis régalé à jouer ce prêche. Alors déjà, d'abord, le fait que le président Félix Faure soit à Notre-Dame ce jour-là, c'est un événement. D'ailleurs, il le fait savoir. Enfin, on lui tord le bras et il y va à reculons, mais il y va.
Il y va, sachant qu'il est franc-maçon depuis l'âge de 24 ans, qu'évidemment, c'est pas un grand dévot. Mmh. Et puis, il n'y va pas tout seul. Il y va avec tout son entourage, sa femme, sa fille, ses conseillers de l'Élysée, avec le président du Sénat, le président de la Chambre des députés, le chef du gouvernement, un certain nombre de ministres, des délégations des deux assemblées. Bref, tous les pouvoirs publics sont présents, y compris des républicains assez bouffeurs de curés. Il y en a un qui vient pas, c'est Clémenceau, qui trouve que là c'est trop. Mais c'est vraiment une exception.
Du coup, le prêtre, le père Olivier, se dit « j'ai une occasion de faire de la politique ».
Oui, alors il en fait depuis longtemps, le père Olivier, car c'est un vieux dominicain qui a des comptes à régler avec la République, qui se souvient de la Commune, qui se souvient des lois Ferry. 20 ans plus tôt, il avait été repéré parce qu'il avait déclaré dans un prêche « Les Républicains, c'est comme le fromage, plus il y en a, plus ça pue ». Donc lui, c'est un prêtre plutôt très réactionnaire, favorable au rétablissement de la monarchie. Et ils sont nombreux, bien sûr, dans l'Église en cette fin du 19e siècle. Mais compte tenu des circonstances, avec la présence du chef de l'État dans l'Église, on pouvait s'imaginer un moment plutôt d'union nationale, de concorde, de recueillement, et pas du tout. Le père Olivier monte en chaire pour prêcher, et pour prêcher quoi ? Que finalement ces femmes sont les victimes expiatoires des crimes de la Commune et de la République, des crimes de ce siècle qui se veut démiurgique et qui nie Dieu.
Oui, et qui tourne le dos à la France, fille aînée de l'Église. Quoi.
Tout à fait. Et au passage, d'ailleurs, il y a une petite condamnation du cinéma, invention diabolique, parce que animer des images, c'est un petit peu faire le travail de Dieu, vous voyez. Et donc, ce châtiment est doublement mérité dans l'esprit du père Olivier, pas de la part des victimes, mais de la part de la France et ses victimes, qu'il va comparer à Jeanne d'Arc, meurent en quelque sorte en expiation des fautes de leur temps et de leur siècle et de ces républicains qu'ils détestent, mais qui sont à ses pieds et qui ne peuvent pas lui répondre, du moins sur le moment. Ils ne s'en priveront pas ensuite.
Mais il est le nonce apostolique est là, évidemment l'archevêque de Paris, et probablement toute une ribambelle d'évêques et de prêtres. Ils le suivent, ils sont d'accord avec lui à ce moment-là où il incarne une branche marginale de l'Église catholique.
Il incarne une branche puissante à cette époque-là, mais qui n'est pas la seule. Et puis même certains monarchistes, alors en dehors de l'Église, plutôt des politiques, vont trouver que c'est dommage, que pour une fois que ces libres penseurs et francs-maçons font l'effort d'assister à un office à Notre-Dame, c'est un petit peu dommage de les insulter parce qu'ils ne reviendront plus jamais. Et c'est effectivement ce qui va se produire.
Et il va y avoir des échos de tout ça à la Chambre des députés. J'ai pas eu le temps de le raconter. Vous pouvez peut-être le faire.
Bien sûr, il y a une interpellation, puisqu'à l'époque c'est un régime parlementaire, donc les députés interpellent le gouvernement sur ce qui ne va pas et peuvent très facilement le renverser. Il y a très souvent des gouvernements qui chutent. Alors donc là, c'est un gouvernement qui est dirigé par Jules Méline avec, comme ministre de l'Intérieur, Louis Barthoux. Tous les deux sont au banc du gouvernement. Au départ, ils sont interpellés plutôt sur, je dirais, l'absence de précautions, de règles de sécurité. Oui. Et ils s'en tirent assez bien en disant, mais enfin, il s'agissait d'une réunion privée. Elle n'était pas organisée par les pouvoirs publics. Voulez-vous vraiment que l'État, que le préfet de police ait tout pouvoir d'autoriser ou d'interdire des réunions privées. Et là, l'opposition se calme. Simplement, dans le débat, on dérive assez vite, eh bien, sur cet épisode de Notre-Dame, sur le caractère pas du tout laïque, bien sûr, de l'hommage rendu aux victimes, et sur le discours du père Olivier. Et alors là, la séance va se terminer vraiment dans une cacophonie générale.
Là, on bouffe du curé. Là,
on bouffe du curé. Et c'est là qu'on assiste vraiment à une dissociation entre les républicains de toute nuance, de l'extrême-gauche jusqu'aux républicains de gouvernement, avec les droites qui protestent, et chaque camp considérant qu'on a insulté les morts de l'autre. On a insulté les morts du bazar, et puis on a insulté les morts de la commune. On se traite de fusilleurs, on se traite d'assassins. Bref, c'est une séance qui se termine vraiment mal.
Vous êtes en train de me dire que la polémique politique n'est pas née aujourd'hui, alors ?
Je pense que la polémique et la politique ont parti liés depuis toujours.
La série de TF1, vous l'avez vue ?
Alors, j'ai vu les premiers épisodes.
C'est fidèle, historiquement?
Alors, c'est fidèle du point de vue des costumes, des décors. La scène de l'incendie est assez remarquable. On ne s'ennuie pas. En revanche, bien sûr, c'est une fiction. C'est une fiction mélodramatique avec des personnages qui n'ont pas existé. Même le préfet de police, qui à l'époque était le fameux Lépine, a été rebaptisé Leblanc. Et donc, c'est juste un prétexte, le bazar, pour...
Pour raconter toujours la même chose.
Pour raconter
des
histoires romantiques.
Que les femmes sont infidèles et que les hommes le sont aussi. Hein?
Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des quelques... En marge de ce fait divers, il y a eu quelques destins curieux. Il y a eu, par exemple, une jeune fille à marier qui est sortie vivante mais complètement défigurée et qui a vécu jusqu'à la fin de sa vie le visage couvert. Et elle avait trouvé un mari, mais évidemment, les parents avaient dû consentir une dot énorme et le mari était beaucoup plus intéressé par la dot que par cette femme. Il y a une femme qui a fait toutes sortes de démarches pour retrouver l'homme du peuple qui l'avait tiré des flammes. Et on ne sait pas si elle l'a vraiment retrouvé ni comment elle l'a récompensé. Donc il y a eu comme cela...
Ce sont des petites choses qu'on retrouve. Moi, je n'ai vu que le premier épisode, mais qu'on retrouve dans la série.
Voilà. Donc, les scénaristes se sont inspirés d'un certain nombre de circonstances pour les incarner dans des personnages qui, par contre, ont été inventés.
C'est marrant. C'est une histoire qui était un peu oubliée.
Totalement.
Totalement.
Totalement oubliée. Seuls les historiens se préoccupaient de l'incendie du bazar de la Charité et puis les pompiers, parce que c'est dans la formation des pompiers ou de tous les responsables de la sécurité, ou des assureurs aussi, c'est enseigné comme l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il y a dans l'organisation du bazar de la Charité exactement tous les défauts qui peuvent conduire à une catastrophe. Donc, mais vous voyez, c'était confiné à des cénacles un petit peu restreints. En revanche, ça ressemblait par certains aspects à de grands naufrages comme ceux du Titanic, même si ça a lieu en plein Paris. Et je pense que c'est ce qui a séduit les scénaristes.
Ça m'a beaucoup séduit aussi. Lisez le livre de Bruno Fuligny, L'incendie du bazar de la Charité, aux éditions de l'Archipel. C'est un livre à la fois érudit et qui se lit comme un roman et comme un polar. Merci infiniment d'être venu au micro d'Europe 1.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.